Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Il y a l'idée que la nature n'est pas sacrée dans le transhumanisme. Il y a l'idée qu'on peut modifier la nature, qu'on a le droit de lutter contre la nature. Et donc, il y a cette idée qu'il y a des inégalités naturelles comme il y a eu des inégalités sociales. Et au fond, l'une des grandes idées transhumanisme, moi je la trouve formidable, hein, c'est qu'après la lutte contre les inégalités économiques et sociales, qui a quand même assez bien marché, parce que nos enfants, ils vont dans des écoles, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont les mêmes profs en face d'eux. Vous allez à l'hôpital, le médecin ne va pas vous demander votre compte en banque, il va vous soigner. Bon. Donc on a quand même lutté très efficacement contre les inégalités sociales et économiques. Alors évidemment, il y a 1000 progrès à faire, mais il y a des inégalités naturelles aussi. Et donc si on peut lutter aussi contre les inégalités naturelles, la nature n'est pas un modèle.
Le loto de la biologie.
Bien sûr, et qui est très injuste, très inégalitaire.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact qui vous est cette semaine encore présenté de notre sympathique studio parisien. Avec moi, le philosophe, professeur, essayiste Luc Ferry. Lors de notre dernière rencontre, il y a 2 ans, nous discutions d'idéologie écologiste avec la publication de ce qui peut-être semblait un pamphlet, « Les 7 écologies ». Votre plus récent livre paru l'automne dernier, « La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque », s'attarde au projet transhumaniste, un horizon souriant pour certains, comme vous, et plutôt sombre ou chagrin pour d'autres, comme Michel Onfray, avec qui j'étais la semaine dernière. Bonjour Luc Ferry.
Bonjour Stéphane.
Avant de parler de sagesse ancienne, peut-on faire un détour par les folies contemporaines? Parce que je pense que ça nous mènera à ce que vous avez proposé dans ce livre. Commençons par l'actualité. Il y a 2 mondes qui sont en guerre aujourd'hui. Ce n'est pas que la Russie et l'Ukraine qui se font la guerre. J'ai l'impression que c'est l'Occident, au travers de l'OTAN, qui fait la guerre à la Russie, mais que c'est aussi 2 idées de civilisation qui se font la guerre. Votre camarade peut-être, collègue, Emmanuel Todd, disait, ce sont, parce que lui est convaincu qu'on est déjà en 3e guerre mondiale, disait, il y a une vision patrilinéaire qui est celle de la Chine, de la Russie, de l'Inde, qui s'oppose à, est-ce que ça serait une vision LGBTQI+, je ne fais pas d'ironie, enfin, certainement un monde qui cherche ses valeurs, je parle de l'Occident.
Non, je ne crois pas que ce soit une question familiale ou de LGBT, mais ce qui est vrai, en revanche, et c'est tout à fait, et d'ailleurs Emmanuel Todd là-dessus, on est sur la même longueur d'onde, laissons de côté les histoires familiales, patriarcales ou pas, c'est pas le sujet du tout. Le vrai sujet, c'est en effet ce que vous avez dit, c'est-à-dire ces 2 mondes, c'est pas simplement la Russie et l'Ukraine, c'est le monde occidental libéral d'un côté, libéral démocratique, on peut après discuter des différents types de démocratie, mais enfin c'est le monde libéral d'un côté, et contrairement à ce que j'entends toute la journée dans la presse française, enfin, ou dans les radios ou télévisions françaises, en particulier sur la chaîne LCI, qui par ailleurs j'aime beaucoup puisque j'y suis tous les dimanches soirs, mais ce que j'entends toute la journée, c'est que la Russie est isolée. C'est totalement faux. C'est absurde comme analyse. La Russie n'est absolument pas isolée.
70% des votes aux Nations Unies sont avec les Russes.
Et voilà. Et c'est la moitié du PIB mondial et c'est la moitié de la population mondiale. Donc non seulement il y a la Chine qui est du côté de la Russie, mais il y a l'Inde aussi, l'Inde de Modi. Modi, d'ailleurs, qui est plutôt un fasciste, en tout cas un dictateur lui aussi. On a bien sûr l'Iran, on a 25 pays d'Afrique. Donc, Poutine, d'ailleurs, dans des discours extrêmement habiles, a réussi à rallier à son panache, si je puis dire, tout ce qui est hostile à l'Occident américanisé. Voilà. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave, parce que moi, je suis absolument convaincu qu'aucune victoire n'est possible, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que les Ukrainiens ne reprendront jamais la Crimée. qui d'ailleurs est russe à 85%. Mm-hmm. S'il y avait une vraie élection libre en Crimée, il demanderait les Criméens à être attachés à la Russie.
À la Russie.
Bon, donc c'est pas à peine de raconter des histoires. Donc c'est... en plus, l'Ukraine n'existe comme nation que depuis 1991. Bon, c'est pas une vieille nation comme la France ou l'Italie ou l'Espagne. Bon, donc il est à mon avis, il y a aucune victoire n'est possible. Et contrairement à ce que disent à peu près tous mes amis, le point de départ de cette guerre, c'est pas la volonté de Poutine de reconstituer l'Union soviétique, c'est la guerre du Donbass. C'est-à-dire l'idée que, au fond, les Ukrainiens ont voulu, Porochenko d'abord et puis Zelensky après, ils ont voulu régler par la guerre le problème posé par les séparatistes de Luhansk et de Donetsk. Voilà.
Russophones
et russophiles. Hein, ils sont eux-mêmes, quand vous allez là-bas, moi, je connais bien les deux pays, j'ai enseigné pendant 10 ans en Russie, hein, donc au collège universitaire de Moscou et puis au collège universitaire de Saint-Pétersbourg, et puis je connais aussi évidemment assez bien l'Ukraine. Quand vous allez là-bas, je parle de l'Est et du Sud, majoritairement, ils sont russes.
C'est deux pays.
Bien sûr, c'est deux pays.
Et quand on regarde la carte électorale, c'est très clair.
Mais bien sûr, et regardez l'histoire des élections. Quand vous regardez l'histoire des élections depuis la révolution Maïdan, mais même avant, depuis 2004, vous apercevez que dans ces régions-là, c'est extrêmement contrasté. Même la plupart du temps, les pro-russes, disons, gagnent les élections, ou en tout cas sont très proches de les gagner. Et donc, on a vouloir régler par la guerre ce problème posé par ces deux républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk, qui était, à mon avis, une immense erreur. Alors, ça ne justifie pas les crimes de guerre. Poutine n'est évidemment pas un démocrate à l'occidental. Je ne justifie absolument rien des crimes commis par l'armée russe. Ce n'est pas ça.
D'ailleurs, des crimes de guerre, on pourrait dire que dans le dernier siècle, il y en a eu partout. Les Américains en ont commis plusieurs, les Russes évidemment.
Citez-moi une guerre où il n'y a pas de crimes de guerre.
Je ne vous en citerai pas.
C'est impossible.
Je suis d'accord.
Bien sûr, au Vietnam, mais même en Irak. Il y a eu 500 000 morts, il y a eu 200 000 civils tués. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une femme enceinte qui a été tuée en Irak. Enfin, c'est absurde. Et donc, bien sûr qu'il y a des crimes de guerre dans toutes les guerres. Jamais une guerre. La guerre libère toutes les saloperies de l'humanité. Donc, il y a des crimes de guerre à chaque fois.
Mais différence, c'est qu'on ne rêve pas de traduire les chefs de guerre quand ils sont occidentaux devant les tribunaux internationaux, dont d'ailleurs ils ne sont pas solidaires. Les États-Unis ne font pas partie de la Cour internationale de justice.
Non.
Mais quand ce sont les Russes, on dit attention, faites gaffe, parce
qu'on
va vous traduire devant les tribunaux.
Mais là encore, c'est une blague. Enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Évidemment que Poutine ne va pas aller passer ses vacances en Californie. Donc, ça ne se fera jamais.
Il ne sera pas arrêté.
Non, mais il ne sera jamais arrêté. Et en plus, il y a des dizaines de pays dans lesquels il peut aller. Bon, lapsus, c'est où il a des alliés. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on comprenne à chaque fois, on dit, il est pro-Poutine, mais c'est pas du tout le cas, c'est absolument pas le sujet. Je dis simplement que ce qu'on a réussi à faire avec cette guerre qui bénéficie avant tout aux Américains, puisque les Américains, ils ont vendu... Écoutez bien ça, parce que les gens, ils ne veulent pas accepter ça, mes copains, télo de gauche. Bon. Mais la vérité, c'est que les Américains ont vendu 35 F-35 à l'Allemagne immédiatement. Mm-hmm. Ils ont vendu 2 centrales nucléaires à la Pologne. Ils vendent le blé du Middle West et le gaz de schiste et le pétrole de schiste au monde entier. Et en plus, le vieux Biden, qui est quand même, il faut bien le dire, à moitié gâteux, il a réussi à reconstituer l'OTAN et à apparaître comme le chef du monde libre. Et à stopper l'hémorragie au midterms. Donc, pour lui, c'est Byzance, la guerre en Ukraine. Donc, et nous, bêtement, nous, Européens, on s'est alignés au garde-à-vous derrière Joe Biden. C'est absurde ce qu'on
mais
a fait.
Mais pas que les Européens, je vous dirais que les Canadiens, les Australiens, les Sud-Coréens,
mais
les Néo-Zélandais.
Bien sûr, mais l'Union Européenne aurait dû avoir une position à part, parce qu'on n'avait aucune raison. On n'est pas anglophone spécialement, on n'est pas dans la culture américaine spécialement. On avait aucune raison de s'aligner sur les États-Unis. On aurait dû proposer un plan de paix. D'ailleurs, j'ai noté qu'Elon Musk avait proposé un plan de paix qui n'est pas du tout idiot, contrairement à ce qu'on dit à peu près partout dans les médias français. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la seule solution, c'est ce qu'avait dit Kissinger aussi, la seule solution, c'est d'organiser des vraies élections libres dans les territoires...
Dans l'Est de l'Ukraine.
Bien sûr. Alors maintenant, c'est très difficile parce qu'il y a eu des déplacements de population des deux côtés. Il y a des Ukrainiens de l'Est qui sont partis en Russie par centaines de milliers. Il y en a d'autres qui sont allés vers l'Ouest et même vers la Pologne ou vers l'Allemagne. Donc, c'est compliqué. Mais par exemple, en Crimée, c'est encore jouable. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, les Ukrainiens auraient dû accorder à ces républiques séparatistes l'équivalent d'une autonomie comme celle de la Catalogne en Espagne.
Alors, vous avez d'entrée de jeu, balayer du revers de la main cette question sur les valeurs sous-jacentes qui peut-être aussi produisent cette guerre.
Il se trouve
que M. Poutine se gargarise de ce que nous n'avons plus de valeur, dit-il.
Oui,
ça parle au reste du monde. Ça parle certainement à l'Inde, ça parle aux Chinois. Et il y a un lien avec votre travail. Je vous suis toujours impatient de la question. Je vous vois déjà en train, comme un boxeur. Vous êtes en train de vous... Quand est-ce qu'il s'en vient? Vous qui dites...
J'adore votre accent. C'est pas...
c'est pas un accent, c'est vous qui avez un accent.
J'étais sûr que vous me répondriez ça.
Évidemment que vous avez un accent.
Mais j'adore quand même l'accent.
Et ça pourrait être plus...
Québécois.
N'essayez pas. N'essayez pas. C'est toujours terriblement disgracieux.
Non, mais vous le faites très bien. Allez-y.
Merci.
Je vous écoute.
Ça arrive justement dans ce qui vous interpelle directement. Vous dites, il n'y a plus de valeur transcendante en Occident. Laissez-moi finir.
Allez-y.
On s'est débarrassé de Dieu, on s'est débarrassé de la nation, vous pourrez expliquer ce que vous voulez dire.
De la révolution.
D'accord. Mais il y a l'amour.
Pas seulement, bien sûr.
Mais qui est une valeur qui pourrait être transcendante. La solidarité, peut-être aussi.
Oui.
Est-ce qu'on peut opposer l'amour au canon? Et je reviens encore une fois, est-ce qu'il y a deux visions idéologiques?
Oui, bien sûr. Et du reste, pour être très clair, c'est pour ça que je disais que je ne suis pas pro-Poutine, les valeurs de l'Occident sont les miennes, évidemment. J'aime mille fois mieux vivre dans l'Union européenne plutôt qu'à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, où, encore une fois, j'ai enseigné pendant des années. Bon, et donc, je préfère évidemment la démocratie libérale à tout ce qui peut ressembler à une dictature, même d'un peu loin, parce que chez Poutine, il est bien élu, il est vraiment élu, Poutine. Mais ce qu'il y a de dictatorial chez lui, c'est incontestable, c'est qu'il a éliminé toutes les oppositions.
Mmh.
C'est ça le vrai problème d'une dictature aujourd'hui. Il est très bien élu, il est vraiment élu. C'est Giscard qui avait dit, il a une relation sympathique avec son peuple. Chirac aussi avait d'ailleurs beaucoup de sympathie pour Poutine. Bon, Macron l'a d'ailleurs, quoique évidemment aujourd'hui on essaye de mettre ça sous le tapis, mais enfin il l'a reçu en grande pompe à Versailles et à Brégançon, ce qui n'est pas la même chose que Versailles ou que l'Élysée.
Symboliquement, non ?
Symboliquement, c'est autre chose. C'est très personnel. Il a dit, il ne faut pas humilier Poutine. Bon, non, là où
mais avait-il tort d'ailleurs de dire qu'il ne fallait pas ?
Non, il a raison. Moi, là-dessus, c'est un des rares points où je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose de non démocratique et dictatorial dans l'élimination, y compris physique, des opposants. C'est incontestable. Et du reste, il réunit autour de lui toutes les dictatures du monde. Donc, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon monde. Simplement, ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'en effet, l'analyse que Poutine fait de l'Occident, c'est que l'Occident est en déclin, en décadence. C'est exactement ce que dit mon ami Michel Onfray.
Oui.
C'est ce que dit Zemmour. Ils ont exactement le même discours que Poutine sur l'Occident. Parce qu'on
ne
croit plus à rien. Déclinisme. Voilà, l'Occident chrétien s'est effondré, il ne croit plus à rien, etc. Je pense exactement l'inverse. Voilà, c'est là qu'il y a,
que cet Occident chrétien ne s'est pas effondré ou n'est pas
non,
en voie de
c'est pas ça. L'Occident chrétien s'est effondré. Je peux vous donner les chiffres pour la France. Ils sont incroyables. En 1950, 95% des Français sont baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres diocésains en France.
5 000 aujourd'hui.
Ouais, même pas. 4 500. Et donc, ce que je dis, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que nous avons vécu en Europe, dans la vieille Europe, et puis après dans le reste du monde occidental, mais après l'Europe, évidemment. Nous avons vécu ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, et c'est pas un truc cucu, sentimental, c'est pas du tout le problème, c'est la naissance de la famille moderne. Et donc c'est la naissance de ce que j'ai appelé la sacralisation de l'humain. Le sacré, c'est pas le religieux. Là où les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils croient que le sacré, c'est le religieux. Non, dans le mot sacré, il n'y a pas le mot religion. Le sacré, c'est ce pour quoi on pourrait donner sa vie, et c'est le lieu du sacrilège. Si vous touchez un cheveu de mes filles, je prends les armes. Voilà. Et donc, cette révolution du sacré, cette sacralisation de l'humain, elle fait qu'on n'a pas besoin de religion pour défendre des valeurs. La France était attaquée par je ne sais quel pays, la Russie ou un autre, ça n'arrivera pas, mais c'est pas ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. Mais si la France était attaquée, contrairement à mon grand-père qui a fait la guerre pour défendre la France, moi, je défendrais les Français. C'est pas la même chose. Vous voyez, la révolution de l'amour...
C'est plus la nation ?
Non, ni la révolution. Quand j'étais gamin, c'était la nation à droite, la révolution à gauche, qui était comme dans un tableau en perspective, c'était le foyer de sens. Hein, c'est ce qui organisait tous les projets particuliers. Tous mes copains étaient d'extrême gauche, Ils étaient souvent. Voilà. Ils étaient maoïstes, trotskistes ou anarchistes ou communistes, comme André Comte-Sponville, par exemple, que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment un ami. Et puis Finkielkraut était en frais, tous ces gens-là étaient à l'extrême gauche. Bon. Et puis, à droite, on était nationalistes, on était gaullistes. Et moi, j'étais un gaulliste, j'allais dire mou, parce que j'aimais bien Rocard, donc j'étais un gaulliste social-démocrate. Voilà. Et je n'ai pas changé, d'ailleurs.
Mais le monde autour de nous a changé.
Oui, mais il a besoin de ça plus que jamais. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la question politique dans ce monde démocratique que, malgré tout, je défends, malgré ses défauts, ce n'est pas la question de la nation ni de la révolution, c'est la question quel monde nous allons, nous, les adultes, prendre la responsabilité de laisser à nos enfants. C'est la question de la guerre avec l'islamisme. C'est la question de la dette, c'est pas rien. C'est la question de la protection sociale dans le cadre de la mondialisation qui bouffe tout l'État-providence. C'est la question de l'éducation et c'est la question de la transition écologique. Autrement dit, c'est toutes les grandes questions. Quel monde, nous, les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à ceux qui viennent, à mes enfants, c'est-à-dire les vôtres et les miens, les nôtres, c'est-à-dire l'humanité qui vient. Ce n'est pas un repli égoïste sur la sphère privée, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce n'est plus la nation, la révolution, c'est cette révolution de la famille moderne qui change la donne, cette sacralisation de l'humain qui change la donne.
Mais il y a un paradoxe, parce que vous soulignez que l'époque aussi est tentée par la bonheurisation.
Ah oui,
c'est-à-dire
c'est
la psychologie positive qui fait qu'on retourne vers nos nombrils, qu'on est obsédé par notre petit bonheur à nous.
Oui.
Or, me semble-t-il, la conclusion logique, c'est que ça délite tout. Il est très difficile d'être solidaire quand on n'en a que pour soi. Et je vois très mal cette génération monter au front pour défendre quoi que ce soit.
C'est le problème.
Seront-ils même capables de faire la guerre si le pays était attaqué?
C'est le problème. Et là, c'est le seul point que je trouve délétère. Ben, gravement, je parle des lames de fond. Il y a des problèmes ici ou là. Il y a plein de problèmes toujours dans le monde tel qu'il va. Bon, mais la lame de fond qui m'inquiète, c'est celle que vous décrivez, c'est-à-dire cette espèce de quête frénétique du bonheur, cette quête narcissique du bonheur, donc qui s'est incarné aux États-Unis dans la naissance de la psychologie positive dans les années 80 avec Martin Seligman qui était l'inventeur de la psychologie positive, les théories du développement personnel, self-help, et donc des livres comme par exemple il y a un livre en France de Fabrice Midal qui est un psychologue positif, enfin un philosophe du bonheur, un idéologue du bonheur.
Alors vous n'êtes pas un philosophe du bonheur.
Ah, pas vraiment, je pense que c'est l'idée la plus absurde de l'histoire de l'humanité. On cherche tous le bonheur, personne n'est contre, mais c'est une idée, Kant a raison, c'est une idée de l'imagination. Son livre s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau », et dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée ». Voilà. Et quand je vois, là, cette semaine, on a eu un événement tragique en France, puisque un Syrien de 31 ans a attaqué au couteau 4 bébés, dont un bébé de 2 mois dans un berceau. Bon, c'est vrai que c'est les bras vous en tombent des mains. Bon. Et donc, c'est très fort, la réaction était très forte, je crois pratiquement dans tous les esprits, dans tous les cœurs, on a eu le sentiment d'une profanation.
Et c'est une profanation.
Ben, exactement ce que je pense. Et c'est ça que j'appelle l'humanisme de l'amour, c'est-à-dire ce sentiment que l'être humain est sacré. Moi, je ne vous connais pas, mais si vous étiez attaqué dans un train ou dans un métro, je sais que je devrais y aller. Après, est-ce que j'aurais le courage, comme ce garçon Henri, là, qui est ce jeune homme de 24 ans qui s'est porté au secours des enfants, qui a essayé de stopper avec son sac à dos, etc. Ben, on a été d'une admiration sans limite pour cet acte de courage, parce qu'on considère que le sacré est là.
Mais je vous renverrai à ce moment-là à l'actualité aussi courante aux États-Unis où un jeune homme, vétéran de la guerre en Irak, a décidé d'immobiliser quelqu'un qui intimidait et menaçait des passagers, l'a étranglé dans une manœuvre simplement d'immobilisation, et cette personne est morte. Et aujourd'hui, on se déchaîne contre ce criminel qui a simplement voulu
ne
pas être indifférent.
Non, mais c'est délirant. Il y a eu 3 soldats américains, il n'y a pas très longtemps, dans un train français.
Thalys, non ?
Oui, un Thalys, un train français. Et il y avait un type qui était armé, un islamiste qui était armé, qui commençait à flinguer tout le monde. Ils ont été incroyables, ces soldats américains. Et il y a notamment un sergent américain qui s'est fait blesser, mais à la main, très gravement. Sa main est bousillée. Mais il a été d'un courage incroyable. Et ça, c'est lié... On n'a pas besoin d'être chrétien ou nationaliste ou révolutionnaire pour ça. Il suffit de considérer que l'être humain est sacré. Et ça, c'est lié à cette histoire merveilleuse que les médiévistes, hein, les historiens du Moyen-Âge nous ont apprise, on ne connaissait pas avant. Le premier, c'est Philippe Ariès, hein, l'enfant et la famille sous l'Ancien Régime, et qui ont écrit, après il y en a beaucoup d'autres, Schorter, Flandrin, etc., qui sont passionnants, et qui ont montré que, au fond, c'est l'invention en Europe du mariage d'amour et de la famille moderne qui a entraîné cette sacralisation de l'humain.
C'est une révolution ?
Ah oui. Moi, j'ai appelé ça la révolution de l'amour. Parce que, si vous voulez, ce qui est très frappant dans le christianisme, c'est que malgré tout, le divin l'emportait sur l'humain. Les guerres de religion entre catholiques et protestants n'ont jamais le message d'amour
empêché
du Christ,
les gens de se massacrer.
Exactement. Tandis que là, on est dans une autre optique, qui est ce que j'appelle l'humanisme de l'amour, ou le deuxième humanisme, parce que c'est pas celui des Lumières, c'est autre chose. C'est pas celui de Kant ou de Voltaire. On a eu cette révolution de la famille moderne entre-temps, qui fait qu'on est rentré dans la sacralisation de l'humain. Encore une
fois. Notre première véritable conversation a pour beaucoup porté sur cette notion de courage, de cette idée de combattre
bien
nos
sûr,
peurs.
Bien sûr.
Or, on est très peu encouragé à nourrir ce courage.
Si vous êtes dans la psychologie positive et que vous lisez un livre de Fabrice Midal ou de Christophe André qui vous dit que le but dans l'existence, c'est de vous aimer vous-même plus que les autres, oui, c'est vous n'allez pas prendre les armes pour aller défendre quelqu'un. C'est un vrai problème. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. J'écris un livre en ce moment là-dessus. Ça s'appellera, je crois... D'ailleurs, je l'ai écrit, il est déjà rendu à l'éditeur.
Ça s'appellera...
La frénésie du bonheur, parce que c'est le grand sujet. Et c'est le seul point qui me rend vraiment pessimiste sur l'Occident. Contrairement à mes amis Onfray ou Finkielkraut qui sont pessimistes tous azimuts. Bon, qui pensent que
moi, il n'y a pas de rédemption.
Non, tandis que moi, je trouve que l'Occident est formidable, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires, mais ce qui me rend malheureux ou ce qui m'inquiète et qui pourrait à la limite me rendre déclinologue, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait qu'on s'écroule dans cette idéologie narcissique de la quête du bonheur et que par rapport à ça, les Chinois et les Russes, ils se foutent de nous.
Ils sont dans le réel.
Ils sont prêts à faire la guerre, nous pas.
Alors, est-ce que l'amour peut arrêter les canons ?
Si vous touchez à une de mes filles, je prends les armes, oui. Non, mais ce n'est pas une connerie ce que je vous dis,
mais
c'est
sérieux.
Mais
est-ce qu'on mobilise ?
Oui. On mobilise parce que tout le monde a une... Enfin, 79% des Français vivent en famille. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ça doit être à peu près pareil. Voilà. Et donc, en gros, 80% des gens vivent dans une famille et 80% des gens aiment, malgré tout, globalement. Alors, il y a toujours des exceptions, mais il y a des femmes qui congèlent les bébés, mais c'est rare. Bon. Et donc, 80% des gens aiment dans leur famille et sont prêts à prendre les armes pour défendre leurs enfants, bien sûr. Oui. Et c'est là que je dis à ces gens de la psychologie positive, arrêtez de dire qu'on n'est que narcissique. Enfin, et n'écrivez pas des choses comme se sacrifier pour les autres est une mauvaise idée. C'est pas vrai. C'est ce que ce petit jeune homme Henri a fait. On est dans l'admiration. Et je pense que tous les Français l'admirent. Et tous les Français voudraient être comme lui, être capable de ce courage-là.
Avoir ce courage.
Bien sûr, parce que c'est très difficile. Je ne prétends pas l'avoir. Ça dépend du nombre de couteaux qu'il y a en face aussi, il faut être honnête.
C'est proportionnel.
Oui. Et enfin, en même temps, sur des bébés, j'ai le sentiment que
qu'on y serait allé.
Oui, c'est ça. Mais bon, maintenant, ça fout la trouille. Hein.
Évidemment que ça fout la trouille. C'est pour ça qu'il faut avoir du courage.
Mais bien
parce
sûr,
que
c'est
aucun terrible, besoin de courage là. Si c'est
surtout
pas inquiétant.
Surtout que le type est jeune, il est costaud, il a un couteau à la main, il sait s'en servir. C'est pour ça que ce jeune homme. Et vous savez, c'est très intéressant parce que c'est un chrétien fervent. Mais il faut pour risquer sa vie, il faut avoir ce sentiment du sacré et de la transcendance, sinon on n'y arrive pas. C'est pour ça que j'aime pas la psychologie positive. Alors lui, il l'a par le christianisme, parce qu'il a un modèle en lui qui est le sacrifice du Christ, et le Christ est un sauveur.
C'est formidable d'ailleurs l'histoire, parce qu'il baladait en France, sur les chemins de France.
En visitant les cathédrales.
Exactement.
Voilà, c'est dingue. Un pèlerin.
Un pèlerin.
Pédestre. Voilà, c'est génial. Un type qui se balade à pied pour visiter les cathédrales.
Et qui s'interpose entre des enfants, des nourrissons et un tueur.
Voilà, parce que quand vous avez en vous le modèle du Christ, moi j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape. Et c'est, si je le cite, c'est pas pour vendre le livre, ça m'est complètement égal, mais c'est parce que la question que posait Benoît XVI...
Qu'est-ce que la parole de l'Évangile, la parole du Christ...
Pour les non-croyants.
...peut être utile ou non pour les non-croyants.
C'était sa question.
Mais c'est une question fondamentale.
Dans le vocabulaire de l'Église, ça s'appelle le parvis des gentils. C'était ça, et après le dialogue interreligieux...
Vous étiez un gentil, vous.
Voilà. Il m'avait choisi comme interlocuteur pour son ministre parce que je suis passionné par la théologie chrétienne, bien que non-croyant. Voilà. Mais je trouve que l'évangile de Jean est le texte le plus beau qu'on ait écrit dans l'histoire de l'humanité. Donc, mais je ne crois pas à la résurrection des corps. Bon, peu importe ce que je crois ou ce que je ne crois pas, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, cette philosophie de l'amour et cette sacralisation de l'humain, elle a été sécularisée dans l'histoire de la démocratie européenne. Vous savez, il y a une petite phrase de Tocqueville, je vous en fais cadeau si vous ne la connaissez pas, elle est sublime, elle est géniale. En même temps, dans la démocratie en Amérique, on est en 1836. Il dit, voilà, l'égalité des créatures devant Dieu est devenue l'égalité des citoyens devant la loi. Déclaration des droits de l'homme. Et il critique, alors qu'il adore les États-Unis, il déconstruit, si on dirait aujourd'hui, la politique américaine à cause de cette horreur qu'est l'esclavage. Et donc, c'est quand même très intéressant, cette histoire de la sécularisation du christianisme. Moi, je suis un chrétien sécularisé. Je suis un juif et un chrétien sécularisé. Moïse et Jésus, la loi et l'amour. Ben oui, c'est quand même ça qu'on a sécularisé. Et donc, ce que j'appelle le deuxième humanisme, cette révolution de la famille moderne, donc est inventée à partir de la création en Europe du mariage d'amour, c'est toute l'histoire du 19e siècle, et même pour les bourgeois du 20e, c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir un rapport à la transcendance. C'est pour ça que je ne suis pas déclinologue comme Onfray ou Finke.
Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie les uns aux autres.
Exactement, c'est un satellite. Ça nous relie. Et c'est une transcendance non religieuse, non nationaliste et non révolutionnaire. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Et mes camarades qui ont été marxistes, etc., puis qui sont devenus, je ne sais pas quoi, où ils sont souverainistes, anti-européens, ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas ce schéma-là. Pour eux, simplement, la transcendance a disparu. C'est ça qui... Mais c'est une erreur, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas disparu, c'est
elle
ça m'intéresse.
Elle s'incarne autrement aujourd'hui.
Elle s'est incarnée autrement, voilà.
Alors, il y a un trait d'union avant qu'on parle de transhumanisme, parce que vous avez écrit sur l'écologie, sur l'environnement, et je me demande si ce n'est pas aussi une valeur ou une perception qui nous distingue du reste du monde, c'est-à-dire qu'il y a une angoisse du monde dans lequel on est, qui doit être partagée ailleurs, mais qui est exacerbée à l'Ouest, là où nous avons des moyens, là où on a peut-être fait des excès aussi, alors que je ne vois pas les Russes, les Chinois ou les Indiens être affolés de la même façon.
Il y a une très bonne série d'articles, je vous les conseille, c'est mon côté vieux prof, d'un économiste très intelligent qui s'appelle Éric Laffey et qui a publié des articles contre les décroissantistes et qui montre que l'Occident, même les États-Unis, a fait des progrès absolument considérables dans les 20 dernières années en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'épuisement des richesses naturelles non renouvelables et de pollution. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je suis très écologiste, mais je défends un courant qui s'appelle l'écomodernisme, qui est représenté par un écologiste américain qui a fait d'ailleurs la une de Times comme étant le...
C'est Schellenberger.
Exactement. Qui est extrêmement intelligent. Il y a aussi un prix Nobel.
Never.
Voilà. William Nordhaus, qui est aussi un prix Nobel américain d'économie, qui ont fondé ce courant écomoderniste et qui, au fond, a deux idées que je trouve extrêmement intéressantes. Le découplage. Et il y a un chiffre qui est quand même très, très intéressant. Vous savez qu'on est 8 milliards sur Terre aujourd'hui. 4 milliards de terriens vivent sur seulement 3% du territoire de la planète. C'est dingue. Et donc, si on vivait même sur 20%, mais qu'on organisait les 80% restants comme une magnifique réserve de beauté, d'absorption des gaz à effet de serre et de reproduction de la biomasse et de la biodiversité, on ferait plus que la décroissance, évidemment. Et deuxièmement, ils sont pour l'économie circulaire, qui est un truc génial. Stellantis, qui est le constructeur automobile, enfin la firme automobile française, il y a 14 marques, il n'y a pas que des Français, il y a Alfa Romeo, il y a Peugeot, Citroën, etc. Bon, il y a 14 marques dedans. Ils viennent de créer une boîte en s'alliant avec un autre, avec un spécialiste, un ferrailleur, on appelait ça. Ils viennent de créer une boîte, ils espèrent 2 milliards de chiffre d'affaires, même de bénéfices, plus exactement.
En recyclant l'acier.
Exactement. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Et c'est pas du tout la décroissance, l'avenir. Donc, c'est pas du tout, quand vous parliez de mon livre, c'est pas du tout un pamphlet anti-écolo, c'est l'idéologie décroissantiste, oui. Mais à fond pour l'écomodernisme, que je trouve extrêmement intéressant et qui en plus a la vertu d'ouvrir vers l'innovation, la perfectibilité. Ils ont un slogan que j'aime beaucoup, ils disent « la nature n'a pas de poubelle ». Mais c'est vrai, quand vous y réfléchissez, c'est pas du tout idiot, c'est très profond. Tout est recyclable dans la nature, tout est recyclé. Et donc si on prenait sur ce point-là la nature comme modèle, on pourrait non seulement protéger l'environnement, mais faire de l'argent, comme on dit bêtement, en protégeant l'environnement. Donc si vous dites aux chefs d'entreprise, attendez, vous allez gagner de l'argent, créer des emplois, et innover, et voilà, faire un monde meilleur, au lieu de leur dire qu'on va leur piquer leur pognon et leurs emplois et qu'on va être rivé au terroir, ben, ça marche mieux.
Mais le sens de ma question tout à l'heure était... Mais
je ne crois pas à l'angoisse, hein, pardon.
Je ne crois pas du tout à l'angoisse, je ne suis pas éco-anxieux. Bon. Je pense que... réaliste, je constate ce qui se passe dans le monde.
Mais je ne crois pas qu'ils soient angoissés. Je pense en vérité que les jeunes qui sont à Extinction Rébellion ou qui militent pour l'écologie, en fait, ils sont super contents d'avoir trouvé un nouveau... comment dire, une nouvelle religion, si je puis dire, après l'effondrement
de
du communisme. Mais bien sûr. En vérité, quand je les vois, ils rigolent, ils s'amusent. Vous leur supprimez leur portable à cette génération des 15-25 ans, mais ils suffoquent d'horreur. Alors que le portable, c'est quand même l'objet le plus polluant du monde. Et donc,
ils contribuent, en tout cas, très certainement.
Ah bah, ça, c'est ce qu'a montré Guillaume Pitron dans un très bon livre qui s'appelle L'horreur numérique. Il montre qu'un portable, ça ne pèse pas 180 grammes, ça pèse 180 kilos quand on compte la totalité de la fabrication.
De tout ce qui a été extrait.
Extrait, et puis le voyage, et les transports, et les, voilà, et les terres rares qu'il y a dedans, voilà, les métaux rares. Bon, il y a 17 métaux rares. Bon. Et donc, voilà, ce que je dis, c'est qu'en vérité, ils font semblant d'être angoissés. La vérité, c'est qu'ils sont fous de joie d'avoir trouvé, après l'effondrement du communisme, une nouvelle cause. On a besoin de causes.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas le point de vue d'un homme de 73 ans?
Bah écoutez, moi j'ai plein d'enfants à la maison parce que j'ai trois filles ravissantes, hein, donc il y a beaucoup de garçons autour. Donc je vois ces 18-20 ans, 22 ans, 23 ans, et donc je vois qu'après avoir pris des airs extrêmement sérieux pour parler de l'environnement, ils s'éclatent, ils rigolent.
Donc il n'y aurait pas de morgue?
Non, c'est pas ça, c'est encore une fois la peur, comme dit Hans Jonas, la peur c'est ce qui fait prendre conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement, mais encore une fois, après l'effondrement des grandes idéologies fortes, que ce soit le nationalisme, le communisme et le christianisme dont on parlait tout à l'heure, retrouver une religion verte, c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur. Et donc c'est un bonheur.
C'est donc dire qu'on a besoin d'idéologie ou de religion transcendante.
Mais évidemment, bien sûr.
Et donc, l'amour ne suffit pas.
Ben, ça, alors ça peut être l'amour du genre humain qu'on va protéger en protégeant l'environnement.
On fait de la sémantique ici.
Bien sûr, bien sûr. Mais néanmoins, je pense que quand on est jeune, on a besoin d'une idéologie radicale. C'est quand même ce qu'il y a de plus sexy, si j'ose dire, une idéologie radicale. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez d'autre comme idéologie radicale que la religion verte? Il n'y en a pas d'autre.
Sauver Gaïa.
Bien sûr. Et donc, ça repose sur la peur, mais c'est une peur qui est totalement, qui crée une passion, une passion militante, une passion. Ça vous donne de quoi agir. Et donc, quand vous agissez avec des copains, que vous êtes en bande et que vous êtes dans un groupe et dans un parti politique, ben, vous vous éclatez comme jamais.
Alors, la question que je vous posais, Luc Ferry, c'est est-ce que dans une perspective civilisationnel, et je ne suis pas ici un élève de M. Huntingdon, mais entre cet autre monde qui nous regarde se disant « ils n'ont plus de valeur
»
et leur regard sur les enjeux environnementaux à eux, est-ce qu'il n'y a pas une chance d'être décalé? C'est-à-dire qu'ils ne livreront pas le combat de la même manière que nous. Ils ne seront pas dans la décroissance.
Alors, on peut pas comparer la Chine, par exemple, à la Russie. Voilà, Poutine réussit avec son discours occidental à fédérer beaucoup de gens, chinois, indiens, africains, iraniens, etc. Et même en partie la Turquie. Bon, mais évidemment la Corée du Nord. Bon, mais néanmoins les questions sont différentes, par exemple en Chine et en Russie, parce que la pollution est telle en Chine. Même à Pékin, je ne parle pas des villages du cancer. Vous avez les villages du cancer, c'est les villages où on extrait les terres rares, les 17 métaux dont on parlait à l'instant, c'est des villages du cancer, comme on les appelle. Bon. Et donc, du coup, les autorités chinoises, elles considèrent évidemment que la question écologique, ils commencent à considérer ça comme une question absolument, à proprement parler, vitale. Mais ils vont rentrer beaucoup plus dans un courant comme l'éco-modernisme que dans la décroissance en Chine.
C'est pas une option
non,
politique.
C'est pas une option politique. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je pense que la responsabilité des Occidentaux aujourd'hui, c'est plutôt que de s'enfoncer dans la décroissance, c'est de proposer un modèle de développement qui soit tenable. Voilà. Le slogan des écomodernistes, c'est croissance infinie, zéro pollution. Voilà. En plus de la nature n'a pas de poubelle. Avec ces deux idées, découplage et puis, encore une fois, économie circulaire. Et puis surtout, cette idée qu'on va s'appuyer non pas sur la morale, mais sur l'intelligence, c'est-à-dire sur l'intérêt bien compris. Vous savez, quand j'étais gamin, j'avais traduit un texte de Kant, le projet de paix perpétuelle, qui est un texte magnifique, 1795. Il y a une petite phrase dedans qui m'a toujours marqué. Kant disait « Même un peuple de démons serait capable de construire une république démocratique pourvu qu'il soit doué de quelque intelligence. Ben, » c'est exactement la même chose pour l'écologie. Pourvu qu'on soit assez intelligent, on a intérêt à l'écologie, on a intérêt à l'écomodernisme à mes yeux, c'est ce courant-là que je défends, mais on a intérêt à l'écologie. Et ce n'est pas une question simplement morale, c'est une question d'intérêt bien compris. Mmh. On a intérêt à s'appuyer sur l'intérêt, si je puis dire, plutôt que sur la morale.
Oui,
c'est beaucoup plus sûr. Hein.
L'intérêt plus certain, oui.
Ben, évidemment.
Ça nous amène peut-être naturellement à l'horizon transhumain.
Oui, allons-y.
Si on avait plus de temps
oui.
pour se perfectionner,
oui.
serions-nous collectivement oui. comme espèce plus sage
oui.
et donc peut-être à même de faire oui. de meilleurs choix? Parce
oui.
que c'est une des hypothèses que vous faites.
Oui. C'est pas que... certain, hein, mais c'est une possibilité offerte à l'humanité.
Alors, voilà. vous dites... On est à l'horizon, on arrive oui. à cet horizon où on pourra dire que mourir à 150 ans, c'est une mort précoce.
Oui.
Aujourd'hui, on n'en est pas là tout à fait, mais c'est, ça nous guette.
Non, mais ce sera très, très rapide. Et il faut bien comprendre une chose, parce que les gens ne comprennent pas 9 fois sur 10. Hein, ils pensent qu'on va augmenter la vieillesse. Pas du tout. Il s'agit de stopper la vieillesse. Autrement dit, il s'agit de vivre jeune et en bonne santé beaucoup plus longtemps. Mon ami Onfray confond deux choses, pardon de le dire comme ça. Il confond le transhumanisme et le post-humanisme. Ça n'a rien à voir. Donc, il s'imagine que le transhumanisme, c'est de fabriquer des cyborgs et de... Et donc, il explique.
Des hommes augmentés.
Des hommes augmentés. Mais ce n'est pas du tout ça. Le seul projet qui m'intéresse dans cette affaire de transhumanisme.
Mais c'est néanmoins une possibilité. C'est-à-dire que derrière le transhumanisme,
oui.
possiblement.
Oui. Le post-humanisme peut se profiler.
Get.
Mais c'est tout à fait autre chose. Par exemple, si vous prenez. Alors, il faudrait que je vous explique, enfin, pas à vous, mais à ceux qui nous écoutent éventuellement. Mais si vous prenez le projet de Neuralink, par exemple, de Elon Musk. Ce qu'il veut faire, c'est redonner à 90 ans un cerveau d'enfant, enfin de jeune homme ou de jeune fille de 20 ans. Bon, comment ? Vous avez 59 ans, moi j'en ai 72 et demi. On a tous cette expérience passée 50 ans qu'on cherche le nom de quelqu'un qu'on connaît très bien. Voilà.
À moins d'être hyper amnésique comme ça, vous.
Oui, mais même un copain, je cherche le nom, je ne trouve pas. Comme on dit, je l'ai sur le bout de la langue, mais il reste à l'intérieur. Bon, l'idée de... Quand vous regardez... Moi, j'ai fait très sérieusement la biologie. J'ai enseigné biologie et philosophie à la Fac de sciences de Paris. Donc, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Donc, ça m'intéresse vraiment. Bon, mais l'idée, c'est quand vous regardez des connexions de neurones de vieillards, c'est effrayant, les connexions ne se font plus, le bout des neurones et dendrites, c'est comme un poireau que vous sortez de la terre avec les filaments, ça se balade partout. Bon, l'idée de Neuralink, c'est de reconnecter au fond les neurones entre eux et donc de nous redonner la puissance intellectuelle d'un gamin de 20 ans quand on en a 80. Bon, très bien, mais il ne s'agit pas de fabriquer un cyborg. L'idée transhumaniste, moi, qui m'intéresse, c'est simplement l'idée de nous faire vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps, jeunes. Jeune, je dis bien pas vieux. C'est l'âge, c'est l'expérience sans l'âge. C'est l'expérience sans les rhumatismes. Mmh. D'accord? Là, on comprend mieux peut-être. Et donc, ça va être rendu possible par deux secteurs de recherche qui sont absolument géniaux. Un, la reprogrammation cellulaire. Donc, c'est ce que a découvert le prix Nobel de
japonais.
Japonais, voilà, Shinya Yamanaka. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a inversé. On n'a pas stoppé, on a inversé les processus du vieillissement cellulaire. C'est-à-dire qu'on a reprogrammé des cellules d'adultes différenciées, en l'occurrence des fibroblastes, des cellules de la peau, en cellules souches originaires, capables de refabriquer...
Tout, en fait.
Tout, absolument. Et la deuxième stratégie de lutte contre le vieillissement, c'est les sénolytiques. Il y a 4 ou 5 molécules sénolytiques, dans la fisétine, par exemple, qui est tout à fait remarquable, qui est en essai aujourd'hui, d'ailleurs, aux États-Unis, et sur l'homme. Sur les souris, elles vivent 40% plus longtemps, mais en bien, bien, bien meilleure santé, y compris intellectuelle. Parce que ça se mesure dans un labyrinthe, par exemple, la capacité intellectuelle d'une souris. Et donc, pas de cataracte, pas de ce qu'on appelle sarcopénie, la perte de masse musculaire, pas d'arthrite, pas d'arthrose, voilà, pas de maladie cardiaque, pas de cancer. Et donc, je veux dire, voilà, mon camarade Onfray, il faudrait qu'il comprenne que c'est ça le transhumanisme, c'est pas l'idée de fabriquer un cyborg. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Et donc, l'idée, moi qui suis un philosophe de la perfectibilité indéfinie, c'est-à-dire de l'éducation tout au long de la vie, si vous voulez, je me dis que si les humains pouvaient vivre plus longtemps, ça leur donnerait la possibilité, mais ce n'est pas une certitude, d'être moins violents et moins bêtes. Mon père, qui s'est évadé 4 fois des camps nazis, me disait toujours que si les guerres étaient réservées aux plus de 65 ans...
Il n'y en aurait pas.
Il n'y en aurait pas. Parce qu'à cet âge-là, on arrête les conneries. Je veux dire, on est moins violent, je veux dire, y compris au volant. Et donc,
cet homme transhumain, je dis homme, et je parle du genre. Pourrait aussi
vous
avoir
avez eu
de
peur
la
de vous faire flinguer par les féministes québécoises.
Tout, pas du tout. Non, je parle de l'homme parce que
l'être humain, on dit.
Je parle pas de l'être humain, je parle du genre masculin. Tout à fait, l'homme, avec un H minuscule. Cet homme, si on lui donne par exemple de la testostérone jusqu'à 80 ans, peut-être qu'il aura encore l'envie de faire la guerre. Parce qu'il y a un peu de ça aussi dans le fait qu'à 60 ans, on est moins violent.
Mon ami, moi je suis encore une fois
c'est une hypothèse
un
que
héritier
je
de la perfectibilité. Ce que Rousseau appelle la perfectibilité, c'est à l'éducation tout au long de la vie. C'est l'idée que ce qui caractérise l'humain par rapport à l'animal, c'est l'historicité, une historicité sans fin. Par rapport à ça, la vieillesse est un mur stupide. C'est pas vrai qu'on vieillit bien, c'est pas vrai. On vieillit bien quand on crève avant la catastrophe. Vous allez dans un EHPAD, ma maman, elle a 98 ans, je l'ai mise pendant un mois dans un EHPAD parce qu'elle s'était cassé une jambe, je pouvais
c'est
pas
infernal.
Faire autrement. Mais c'est l'enfer. C'est exactement une image de l'enfer. C'est pas de la faute des jeunes femmes qui travaillaient, elles étaient formidables, adorables. Elles faisaient un boulot formidable. Mais c'est juste l'enfer. Voilà. Et donc, c'est pas vrai. Vous perdez la mémoire, vous commencez à déconner, à délirer, vous pouvez plus marcher, vous êtes moche. Quel avantage?
Mais c'est bien pour ça qu'on fait d'ailleurs la distinction entre la longévité et la longévité en santé.
Exactement.
Et c'est deux courbes différentes.
Exactement. Et le projet transhumaniste, c'est simplement de stopper la vieillesse grâce à
La vieillesse.
Oui, guérir la vieillesse, bien sûr. Mon ami Jean-Marc Lemaître, qui travaille là-dessus, qui est probablement le meilleur en France sur le sujet, il a fait un livre, je l'ai aidé à faire ce livre, et je lui ai dit, le titre que tu dois mettre à ton livre, c'est guérir la vieillesse, car c'est la vieillesse, c'est la maladie. Après, parce qu'on croit que les maladies de la sénescence sont des effets de la vieillesse. C'est pas vrai, c'est la vieillesse qui est la maladie. Et donc, quand on meurt avant le naufrage, ça va, mais sinon ça se passe mal, c'est pas vrai que ça se passe bien, et donc la vieillesse est vraiment une saloperie. C'est pas la peine de dire le contraire, parce qu'on se raconte des carabistouilles, et quand on se retrouve tout seul dans un EHPAD, hors de sa famille, voilà, mais c'est horrible, c'est affreux, c'est une image de l'enfer, voilà, et je souhaite ça
vous
à personne.
Vous avez peur de ça, donc?
Ah ben moi je me flinguerais avant, mais c'est vrai que si on peut éviter ça...
Ça se joue comme ça pour vous?
Oui, parce que franchement, l'EHPAD, c'est quand même le truc qui... Parce que vous vous retrouvez tout seul la nuit. J'ai vu ma maman, je l'ai retirée. Bon, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'elle avait une jambe cassée. Bon, mais je l'ai retirée au bout d'un mois. Et encore une fois, les gens de l'EHPAD étaient remarquables. C'était des gens très bien, ils faisaient un boulot formidable. Mais c'était ce que nous promet le diable dans la théologie chrétienne. C'est une espèce de solitude, de désolation éternelle qui se profile à l'horizon. Et c'est avec des vieux à côté qui sont complètement en gâte. Je suis désolé de le dire, mais moi je parle normalement, c'est la vérité. Bon, d'ailleurs, De Gaulle disait c'est un naufrage. Alors,
la vieillesse.
Bien sûr, en regardant Pétain, mais il avait raison. Et donc je pense que l'idée du bien vieillir, on se raconte ça pour se faire plaisir, mais c'est qu'une question de délai, c'est qu'une question de temps.
Mais c'est l'histoire de la philosophie occidentale. Vous citez abondamment Sénèque. En fait, vous passez les deux tiers de ce dernier livre à rappeler que... les poncifs, peut-être, de la sagesse
ancienne
depuis très longtemps nous encouragent à une certaine fatalité.
Oui.
Il faut accepter que y a un âge pour tout, se résigner.
Sénèque et Cicéron, surtout. Je déteste Cicéron, d'ailleurs.
Pourtant, la sagesse stoïque, aujourd'hui, est beaucoup enseignée, très
dans la psychologie positive, c'est le modèle, oui. Et pourquoi? Lisez le De Senectute de Cicéron, de la vieillesse. Un tissu d'ânerie, on ne peut pas faire plus bête que ce dialogue. Et donc, ce qu'explique Cicéron, c'est très intéressant, parce que la première phrase de son petit livre, qui est un dialogue, c'est « Est-ce qu'une vie de 800 ans serait supérieure à une vie de 80 ans ?» On croirait que c'est écrit aujourd'hui contre les transhumanistes. Il répond non, parce que la vie est toujours assez longue pour être dans l'honneur et la vertu. Pourquoi il dit ça? Parce que, dit-il, il faut respecter la nature comme un dieu. Ça veut dire quoi? Vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte, et puis comme un vieillard qui accepte.
Ben c'est le cycle de la nature, c'est aussi un peu le cycle des saisons, accepter qu'il ait été fait chaud,
bien sûr,
fait froid.
Bien sûr, et toute la philosophie de la perfectibilité est antinaturelle. tout ce qu'il y a de beau,
l'aspiration,
mais tout ce qu'il y a de beau dans la démocratie moderne est antinaturel, que ce soit la médecine ou que ce soit la démocratie elle-même. Mm-hmm. Tout ce qu'on a inventé, est-ce que vous croyez que l'État-providence c'est naturel? Pas du tout. Ce qui serait naturel, c'est d'envoyer les vieux au cocotier, de le secouer. Ça, c'est naturel, de laisser crever. Et donc, si vous voulez, la nature, il faut être clair, la nature au sens moderne du terme, telle qu'on la pense à partir de Darwin, c'est la sélection naturelle. C'est pas la protection des faibles et des handicapés et des vieux, c'est pas vrai. Le système des retraites est pas naturel. On a inventé des choses qui sont totalement antinaturelles.
Ce n'est pas la loi de la jungle.
Non, exactement. Et c'est pas la sélection naturelle de Darwin. Et donc, et tout ce qu'on a inventé de grandiose dans la démocratie moderne, dans l'humanisme moderne, plus généralement, en vérité, est antinaturel. Alors, ce que nous aimons dans la nature, c'est la beauté et l'intelligence de la nature, des systèmes naturels qui sont magnifiques. Quand on intervient là-dedans, on est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut respecter ça. Mais en revanche, la sélection naturelle, c'est ce qu'on a réussi, à part les nazis, c'est ce qu'on a réussi, nous, modernes, à surmonter. Il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme modèle.
Alors, Onfray, dont on parle abondamment aujourd'hui...
Oui,
parce que
vous m'avez dit que vous avez fait la même émission la semaine dernière.
Et qui serait effectivement, dans le cycle diffusé juste avant vous, dit la tentation eugéniste précède largement les nazis. Condorcet déjà rêvait de chimères, de croisements entre femmes et singes pour essayer peut-être de créer une bête qui aurait pu être au service du reste de l'humanité.
Oui, mais
le projet eugéniste...
C'est de la science-fiction. Non, chez les nazis, c'est pas de la science-fiction, hélas. Oui. Non, chez les...
Mais le rêve, non, précède largement.
Oui, mais c'est vraiment pas du tout l'idéologie générale du monde démocratique. Au contraire, si vous faites un sondage aujourd'hui dans l'univers démocratique, 95% des gens sont contre l'eugénisme et trouvent ça abominable. Et donc, en revanche, considérer que, comme le fait Michel Onfray, que le transhumanisme est un eugénisme, c'est complètement faux. C'est pas du tout un eugénisme. Je vais vous dire. Il y a une idée, en effet. Alors, moi, je la trouve grandiose, mais on peut la discuter. Il y a l'idée que la nature n'est pas sacrée dans le transhumanisme. Il y a l'idée qu'on peut modifier la nature, qu'on a le droit de lutter contre la nature. Et donc, il y a cette idée qu'il y a des inégalités naturelles, comme il y a eu des inégalités sociales. Et au fond, l'une des grandes idées transhumanistes, mais moi, je la trouve formidable, c'est que après la lutte contre les inégalités économiques et sociales, qui a quand même assez bien marché, parce que nos enfants, ils vont dans des écoles, qu'ils soient riches ou pauvres, ils ont les mêmes profs en face d'eux, pour le meilleur ou pour le pire.
Pour l'essentiel.
Pour tout le secteur public chez nous. Mm-hmm. Peut-être pas, c'est moins dans le continent nord-américain, mais chez nous, c'est vraiment 90%. Bon, vous allez à l'hôpital, le médecin ne va pas vous demander votre compte en banque, il va vous soigner. Bon, donc on a quand même lutté très efficacement contre les inégalités sociales et économiques. Alors évidemment, il y a 1000 progrès à faire, mais enfin, c'est quand même grandiose ce qu'on a fait de ce point de vue-là. Mais il y a des inégalités naturelles aussi. Et donc, si on peut lutter aussi contre les inégalités naturelles, la nature n'est pas un modèle.
Le loto de la biologie.
Bien sûr, et qui est très injuste, très inégalitaire. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup. Quand tu es poursuivi par le lion, c'est pas la peine de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin. Celui-là, j'aime beaucoup. Mais c'est ça, la nature. Voyez. Et donc, si t'es vieux et handicapé, c'est tout bénéfice pour le voisin. Voilà. Donc, non, si la nature n'est pas un modèle moral, sauf pour les nazis. Voyez. Et donc, c'est ça aussi que je reproche à une partie de l'écologie. Je leur dis, faites attention.
Mais
parce
ça pose néanmoins quelques questions sur la potentielle, sinon l'avérée réification de tout. C'est-à-dire que tout est marchandisable. On peut, pour faire court... Pas chez nous, mais je pense que c'est vrai.
La santé est gratuite complètement.
C'est
entièrement gratuit.
Alors, je vous proposerai l'idée qu'on puisse louer l'utérus d'une femme.
Chez nous, c'est absolument interdit.
Mais ça se fait.
Non, c'est
on
pas...
Va,
non.
On va ailleurs, non, je connais des gens qui l'ont fait.
C'est comme si vous disiez le vol n'est pas interdit puisqu'il y a des gens qui volent. Non, c'est interdit. Donc, chez nous, c'est vrai que c'est...
Et
c'est
vous connaissez des gens qui l'ont probablement fait.
Mais j'ai plein d'amis qui sont allés ailleurs pour... Mais en principe, c'est pas monnayable. Maintenant, c'est comme les gens qui volent. Le vol est interdit, mais les gens qui volent.
Ce que je vous soumets, c'est qu'à partir du moment où la nature et la biologie sont de moins en moins sacrées, avec à la clé potentiellement des bénéfices extraordinaires, je suis prêt à les contempler avec vous.
D'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de profanation?
Mais pas plus que... C'est comme si vous me disiez, c'est terrible.
Vous êtes exaspéré.
Non, pas du tout, je ne suis pas exaspéré. C'est comme si vous me disiez, c'est terrible, on a beau interdire le meurtre, il y a quand même des assassinats chaque année, c'est scandaleux. On a beau interdire le vol, il y a des voleurs chaque année. Non, dans le système, disons, qui est celui de...
Est-ce que ce n'est pas une boîte de Pandore? Parce qu'au-delà de ce qu'on interdit certaines choses, on a aujourd'hui techniquement les moyens de faire des choses que les apprentis sorciers d'hier ne rêvaient même pas d'avoir.
Non, mais non, là, vous me faites...
Quand vous dites mon ami, en général, c'est pour me corriger.
Non, c'est parce que vous me faites du onfray. Mais la vérité, ben oui, la vérité...
un compliment ou vous êtes ironique?
Mais non, mais... vous savez, moi, j'ai comment dire, c'est peut-être une de mes caractéristiques, mais j'aime beaucoup discuter avec des amis avec lesquels je suis en désaccord total. J'ai fait un livre avec André Comte-Sponville, s'appelle La sagesse des modernes. Mm-hmm. Il est matérialiste à fond, il venait du bouddhisme, moi, j'ai complètement à fond de l'autre côté, mais on s'adore, ça. Et puis on a aimé parler. Bah. Donc quand je dis que je ne suis pas d'accord avec tel ou tel, c'est pas...
Mais c'est mon fond marxiste, j'aime bien cette idée dialectique où on peut opposer les idées pour peut-être faire jaillir...
Je vous donne un exemple, sérieux. J'ai travaillé avec Jean Dausset, qui était un de nos grands prix Nobel de médecine dans les années 90, il était en charge du projet Human Genome, donc le premier séquençage du génome humain. Et il travaillait avec un très grand biologiste, s'appelle Daniel Cohen, qui est resté un de mes grands amis, sur ce premier séquençage du génome humain. Écoutez bien, ça a duré 13 ans, donc c'était un projet international, ça a duré 13 ans, ça coûtait, le premier séquençage du génome a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, pour 150 balles, vous faites un séquençage de génome. Donc, la caractéristique majeure, c'est la démocratisation des biotech. Et donc, c'est pas la marchandisation, c'est la démocratisation financière des biotechnologies. Donc, ce sera accessible à tout le monde.
Mais est-ce qu'il n'y aura pas une fracture quand même, peut-être sur une période de 10 ou 15 ans, où seuls les nantis auront accès à ça?
Non, parce que c'est ce que je viens de vous dire, ça ne coûte rien. La fracture, elle sera religieuse et morale, elle ne sera pas financière.
Entre ceux qui adhèrent et ceux qui ne veulent pas adhérer.
Par exemple, toute l'Église est contre le transhumanisme et à fond contre. Mais il faut aussi comprendre pourquoi.
Est-ce que l'Église pèse encore beaucoup?
Ça pèse malgré tout dans un certain nombre de pays. Je ne parle pas de l'Amérique du Sud seulement, mais enfin même en France, en Italie, en Espagne, ça pèse quand même. Et puis vous avez une sécularisation antilibérale. Tous les antilibéraux sont contre le transhumanisme, par exemple. Ils pensent que les transhumanistes sont des néolibéraux, ce qui est complètement faux, parce qu'au contraire, ils veulent une intervention de l'État. Mais enfin, c'est comme ça qu'ils pensent. Donc les antilibéraux, qu'ils soient chrétiens traditionnalistes ou qu'ils soient antilibéraux en venant de l'extrême gauche, ils détestent le transhumanisme. Bon. Mais néanmoins, je pense que même si ce n'est pas pour soi, si vous avez un enfant ou un ami ou votre femme ou votre mari, ou, enfin, peu importe, celui que vous aimez qui est en train de mourir, vous seriez prêt à tout donner, tout, pour l'empêcher.
Pour lui donner 6 mois, voilà. Et à plus forte raison, 30 ans.
Et 30 ans, voilà. Et donc, l'amour, cette révolution de l'amour fera cette idée de longévité, on ne pourra pas passer à côté.
Mais ça sera une révolution anthropologique substantielle.
Bien
parce
sûr.
Que jamais on n'aura été à même d'avoir autant de temps pour se perfectionner.
Oui, pour être moins bête et moins violent, oui.
Et plusieurs fois, j'ai dit, une vie, c'est très court.
Mais c'est trop court.
Pour se faire.
Mais écoutez, on meurt juste au moment où on commence à être moins con aujourd'hui. Et je peux vous garantir que c'est vrai.
Moi, Est-ce que vous étiez con plus jeune?
Très. Mais au volant, par exemple, où j'étais extrêmement impatient. Par exemple, avec mes enfants, je suis aujourd'hui d'une patience dont j'aurais été mais totalement incapable quand j'avais 30 ans. Au volant, je suis pilote semi-professionnel, mais sur la route, je respecte les limitations de vitesse, je ne fais pas une bêtise, je n'ai pas d'accident. Quand j'étais gamin, je faisais n'importe quoi. Bon. Et donc, c'est vrai que ce soit avec les autres, que ce soit avec les gens qu'on aime ou avec les gens qu'on aime qu'on ne connaît pas, ou que ce soit sur la route, par exemple. Et puis, je sais, honnêtement, je suis mille fois meilleur prof aujourd'hui que je ne pouvais l'être à 30 ans, parce que je sais simplement des milliers de choses en plus. J'ai passé ma vie à apprendre. Donc, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête?
Et à vous perfectionner.
Mais bien sûr. Et pourquoi voulez-vous que ça s'arrête? Encore une fois, la vieillesse est un mur idiot. C'est absurde, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. L'âge, oui, mais pas la vieillesse. Les gens ne comprennent pas. Ils mélangent âge et vieillesse. Oui, il y a un magnifique poème de Victor Hugo que j'ai cité dans tous mes livres, c'est le fameux « Beaux endormis ». Voilà. Et donc, l'âge, oui, sans la vieillesse, bien sûr.
Mais est-ce qu'à terme, on ne sera pas tenté de se dire « 650 ans, c'est pas mal, pourquoi pas 300 ?»
Et alors ? Why not? C'est pour ça qu'Elon Musk veut coloniser Mars, parce qu'il se dit qu'un jour ou l'autre, on aura besoin d'un vase d'expansion. Mais c'est même pas une blague. Hein.
Quoique la démographie nous enseigne que peut-être dans 100 ans, on sera beaucoup moins nombreux qu'on l'est aujourd'hui.
C'est même certainement le cas, oui. C'est ce qu'ont montré deux chercheurs de
Canadiens.
Chez vous. Ibbitson et Bricker dans Planète vide. Très remarquable livre.
À moins évidemment qu'on reste plus longtemps pour l'habiter, cette planète.
Oui, mais ça compensera le déclin de la natalité, oui. Et donc, c'est parce que, en fait, l'urbanisation et la féminisation du monde et le retrait des religions sont les trois éléments qui font qu'on va vers la dénatalité, on va vers une planète vide. Et donc, le mythe de la surpopulation est un mythe. Et ça, les écologistes n'ont pas encore compris.
Le pic population, d'ailleurs, il n'est pas très très loin.
Non, il n'est pas loin. On va aller vers 9 milliards et après, ça va redescendre très vite. Ouais.
Amoureusement, serons-nous plus habiles, plus compétents si on vit plus longtemps, parce que j'ai la certitude d'être beaucoup moins con à 59 ans que je ne l'étais à 25.
En tout cas, c'est une idée agréable.
Je n'ai pas pour vous, mais...
Mais je viens de vous dire que c'est évident pour moi, c'est évident.
Voilà. Évidemment, alors, maintenant, j'aimerais avoir tout ce que j'avais à 25 ans pour être amoureux.
Mais évidemment. Et donc, encore une fois, mon slogan, c'est l'âge sans la vieillesse. Mais alors, évidemment, l'hypothèse pessimiste, c'est qu'on fabrique des vieux cons et des très vieux cons et des vieux salauds et des très vieux salauds. Bon, mais ça...
Mais si on est salaud à 40, il y a des chances qu'on soit peut-être encore à 100 si on nous donne les moyens de l'être.
On a une chance de s'améliorer aussi. Moi, je vois beaucoup de gens. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, presque tous mes copains étaient maoïstes ou trotskistes. Ben, aujourd'hui, ils sont devenus démocrates. Quasiment tous.
Mais si on leur donne suffisamment de temps, peut-être qu'ils redeviendront maoïstes.
Non, il n'y a pas de raison, parce que c'est... Non, on acquiert des choses, on comprend des choses quand on... Non, il y a quand même là-dessus une certaine sagesse de la... malgré tout de l'expérience. C'est pas... Par exemple, quand vous avez des enfants, bon, c'est l'expérience la plus banale, la moins originale qui soit, mais ça vous... ces petits êtres vous arrachent des sentiments, vous font découvrir des choses qu'on ne peut pas imaginer avant. Bon. Donc, on apprend quand même des choses. Voilà, Beaux endormis, relisez ce poème de Victor Hugo qui est magnifique et qui est un éloge, pas simplement de la vieillesse, mais un éloge de l'âge, oui. De l'expérience,
Et de ce qui vient avec l'âge,
bien
l'expérience.
Sûr, mais bien sûr. Ne serait-ce qu'apprendre une langue, vous pouvez pas, quand vous avez 2 ans et demi, vous n'avez pas appris l'allemand, l'anglais ou l'espagnol, ce n'est pas vrai. Donc, l'âge nous offre la possibilité d'une ouverture d'esprit qu'on ne peut pas avoir quand on est jeune, ce n'est pas vrai.
Alors, l'histoire de l'humanité et de la perfection de cette chose, qui est l'homme H majuscule, c'est toujours fait très lentement.
Oui.
Très, très lentement.
Oui.
C'est de petits progrès. Si sur un horizon court, de 10 ou 15 ans, on ajoute à la vie des gens 50, 60, 80 ans. D'un point de vue anthropologique, est-ce que nous serons capables de nous adapter? Vous connaissez comme moi probablement cette théorie qui dit que la crise de la quarantaine est en fait inscrite dans nos gènes parce qu'on avait biologiquement cet entendement qu'on meurt, et c'était vrai il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Donc, il y a un doute profond qui nous habite à 40 ans. Et le fameux démon du midi est peut-être l'incarnation de tout ça.
Oui.
Mais si du jour au lendemain, on nous donne un nouveau bail de 80 ans...
Ce ne sera pas du jour au lendemain, on en est très loin, mais bon, aura
10,
certainement
15 ans,
10 ans, 15 ans.
Ans. Oh, c'est très
10,
rapide.
10, 15 ans, ce sera très rapide.
Sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est une fraction de seconde.
Mon ami, si vous me permettez, on a cette théorie sur la crise de la quarantaine, c'est-à-dire, elle est totalement liée à l'éthique évolutionniste, c'est-à-dire l'éthique qui est héritée, malgré tout, de Darwin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une éthique évolutionniste, au fond, passé 40 ans, un être humain, passé 50, il n'a plus aucune raison d'être sur Terre. Il s'est reproduit, il a élevé ses enfants, mettons qu'il a eu des enfants quand il avait 18 ou 20 ans, il a fabriqué, donc il a fait ce qu'il avait à faire en termes de transmission de ses gènes, il les a protégés en éduquant ses enfants. Après, qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus rien à foutre sur Terre. D'un point de vue darwinien, à 45-50 ans, on doit dégager. Ça, on ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, on coûte cher à la société. Vous avez un tas de gens qui disent, par exemple, vous avez un écologiste très connu en France, s'appelle Jean Covici, qui dit qu'il ne faut plus soigner les vieux de passer 65 ans. Il écrit ça noir sur blanc. Je le cite dans mon livre.
Il dit aussi qu'on ne devrait pas avoir le droit de prendre l'avion plus de quatre fois dans une vie.
Bon, ce qui est totalement délirant. Je veux dire. Mais ça dit bien cette idée que, voilà, si on est naturaliste, qu'on prend la nature comme modèle, passer 45 ans, on n'a plus rien à faire sur Terre. Et deuxièmement, les vieux dégagent. Voilà. Et donc, moi, je pense que dans l'optique qui est celle de l'éducation infinie, sauf que, encore une fois, cette éducation, elle est stoppée par ce mur de la vieillesse, mais dans cette optique de la perfectibilité infinie, qui est celle de Rousseau, de Kant, de Husserl, au fond des philosophies de la liberté, et non pas des philosophies de la nature, des philosophies de l'historicité, pas des philosophies de la nature, qui sont les sagesses anciennes, en particulier le stoïcisme. Et donc, dans ces philosophies de la liberté très anti-stoïciennes, l'idée qu'on ait 15, 20, 30 ans de plus, c'est juste, puisqu'on n'est pas darwinien, c'est juste une bonne nouvelle, c'est juste une possibilité offerte. En plus, vous n'êtes pas obligé.
Personne ne vous y oblige. On peut choisir de faire autre chose.
On peut choisir de dégager. Le suicide reste une possibilité. Et d'ailleurs, très probablement, dans ce monde qui vient, le suicide assisté et l'euthanasie seront de plus en plus, comme c'est le cas au Québec d'ailleurs, accessibles à qui le voudra. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Ce n'est pas le sujet. Ce que je pense, c'est encore une fois, c'est une possibilité offerte. Et ce n'est pas une question de financière.
Vous dites que vous n'y croyez pas, mais je redoute que vous ayez un 38, parce que c'est toujours le calibre dont vous parlez dans vos conférences. Et vous me disiez tout à l'heure, s'il fallait j'apprenne qu'un jour, je n'ai plus tout à fait mes facultés, je n'attendrai pas de me retrouver en EHPAD.
Non,
donc, la contemplation du suicide deviendrait possible.
Bien sûr, évidemment. Évidemment. Simplement, je pense que je n'ai pas besoin d'aide pour ça. C'est-à-dire, je pense que le risque du suicide assisté, mais c'est un autre débat, il y a aussi désaccord avec la plupart de mes camarades, je pense que le grand risque du suicide assisté, j'ai travaillé beaucoup avec le ministre des Affaires sociales en Suisse, où il y a deux associations de suicide assisté. Mm-hmm. L'euthanasie est interdite en Suisse, mais le suicide assisté est autorisé. Donc, chez Dignitas et Exit. Et donc, l'euthanasie n'est pas interdite exactement, mais disons que ces associations ne sont pas des associations d'euthanasie, l'euthanasie étant pratiquée par un médecin, mais de suicide assisté.
Bon, ce qui est pas la même chose.
On accompagne la personne et on lui donne la potion magique. Bon, je ne suis pas pour une raison de fond, c'est que dans ce pays, mais c'est le cas aussi en Belgique, en Hollande, et dans un certain nombre de pays, on offre ça aussi à des gens qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas en mauvaise santé et qui peuvent être simplement dépressifs. Alors, il y a eu un cas, par exemple, en Suisse, de deux jeunes schizophrènes qui ont été, si j'ose dire, trucidés à Dignitas et qui n'étaient absolument pas en fin de vie, ni malades physiquement. Voilà. Et donc, ça, je pense qu'il y a... Si vous voulez, ce que je crains, c'est qu'à partir du moment où on est dans un pays très libéral, c'est le cas de la Suisse, vraiment, on peut même dire néolibéral, la gamine qui a 25 ans, qui a une peine de cœur, ou le gamin, hein, c'est pas anti-féministe que je dis, c'est le gamin qui a une peine de cœur, qui dit « ma vie est foutue, j'ai été quitté, je l'aime, elle aime un autre, ou je sais pas quoi, il aime un autre, on voit ce que vous voudrez », il aille dans un truc comme ça et qu'on lui dise « est-ce que t'es bien sûr ?» Parce qu'on vérifie 3-4 fois, mais une fois que vous répétez, et comme la souffrance psychique est considérée comme aussi grave que la souffrance physique, où on va avec ça ? On ouvre une porte que je trouve pas belle, parce que j'avais fait
mais
un
livre... Mais vous parlez de dignité. Les plus radicaux, si on ne leur donne pas la potion, trouveront d'autres moyens qui ne sont peut-être pas très dignes de mettre fin à leur jour, même si c'est pour les mauvaises raisons.
Oui, mais peu importe qui se débrouille, on n'est pas obligé d'être assisté partout et tout le temps. Et par ailleurs, je trouve ces associations comme Dignitas, ou en France, c'est Mourir dans la Dignité, je trouve la formule absolument ignoble. Ce n'est pas parce qu'on est vieux et malade dans un EHPAD qu'on est indigne. Hein, c'est pas vrai. C'est, je veux dire, l'idée que sous prétexte qu'un être devient dépendant parce qu'il est vieux ou malade, il serait indigne, c'est une idée atroce. C'est une idée.
Je suis avec vous.
Voilà. Et donc, je trouve que ces formules mourir dans la dignité sont insensées. Elles sont à la limite, elles sont ignobles. Voilà. Et donc, mais en revanche, oui, c'est vrai que si je devais perdre mes facultés mentales et d'ailleurs physiques, que je pouvais plus marcher, que je pouvais plus penser, et qu'on me mettait dans un EHPAD où je me retrouve ce que je considère comme étant une incarnation sur Terre de l'enfer, oui, je pense que je ferai tout pour en finir, oui, c'est certain, oui, bien sûr.
Est-ce que le transhumanisme et ses promesses arrivera à temps pour faire de vous un jeune vieux ?
C'est ce que je dis toujours à mes amis qui travaillent là-dessus, je leur dis, j'attends les secours, grouillez-vous.
Vous les espérez ?
Oui, parce que j'ai des filles qui sont encore toutes jeunes et puis qui ont encore d'ailleurs besoin de moi, même pour le coup financièrement. Et je me dis que, voilà, et puis en plus je trouve que la vie est formidable, je trouve que j'ai encore plein de choses à apprendre et donc que j'adore apprendre. Moi, je trouve ça formidable d'apprendre. Et donc, je me dis que si je peux vivre encore 200 ou 300 ans de plus, je suis preneur.
Si c'était vrai, alors il y aurait une bibliothèque Luc Ferry entière, parce qu'avec la courte vie que vous avez eue, vous avez déjà écrit plus de 100 titres et je me suis posé la question, avez-vous vraiment besoin d'un cocktail pour vous rendre plus efficace et comment fait-on pour écrire tant?
C'est-à-dire que je travaille tout le temps. Alors, il n'y a que deux choses qui m'intéressent dans la vie. C'est évidemment l'amour, mes filles, ma famille, mes amis. Bon. Et puis évidemment, l'écriture. Donc, la lecture, l'écriture, apprendre. Par exemple, j'ai vraiment appris de la biologie. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand. J'ai appris vraiment sérieusement la biologie. J'ai appris sérieusement l'économie. Bon. Et je pense que j'ai encore des millions de choses à apprendre et que c'est ça qui donne du prix à la vie qu'on a. C'est ça le sens de la vie. C'est ce que disait d'ailleurs déjà là-dessus, je suis très conscient, même si Kant n'est pas un philosophe de l'amour, mais il parlait de la pensée élargie. Mm-hmm. Il n'y a rien de mieux que d'élargir la pensée, c'est génial. Et ça, c'est formidable parce que moi, par exemple, maintenant, je vais assez souvent au Brésil. Avant, je ne connaissais pas du tout le pays. J'ai des amis maintenant au Brésil qui sont comme des frères. Voilà, c'est un bonheur d'élargir l'horizon, de découvrir une autre culture. Et tout. Enfin, c'est un peu une banalité, mais ça ne l'est pas si on rattache ça à l'idée que le sens de la vie, c'est au fond l'élargissement de l'horizon et que ça ne s'arrête jamais. C'est pour
de
ça
l'enrichir.
Que là, bien sûr. Et c'est ça aussi qui nous rend plus humains, donc moins bêtes et moins violents. C'est surtout ça qui m'intéresse.
Mais avant le transhumanisme, puis je ne veux pas ouvrir ici le débat parce qu'on va atterrir sur les retraites en France ou ailleurs.
Oui.
Mais j'ai la certitude...
Il faudra travailler plus longtemps, oui, c'est sûr.
Oui, non, mais j'allais dire, j'ai la certitude qu'avant le cocktail du transhumanisme, l'activité de ne pas renoncer est une manière de vivre plus longtemps. J'ai vu beaucoup de gens se chercher dans l'inactivité.
Oui, c'est une grande erreur. Et c'est vrai que moi, je défends...
Évidemment, c'est un privilège de riche, c'est-à-dire qu'on a des activités que nous aimons.
Évidemment, on a la chance d'avoir des activités qui nous passionnent. C'est-à-dire que notre travail et notre passion, c'est la même chose, c'est une chance inouïe. On n'est pas mineur de fonds, on n'est pas caissière dans un supermarché. Bon, c'est pas la même chose. Quand on perd sa vie pour la gagner, c'est ça qui fait qu'il y a une très grande résistance en France à la réforme des retraites.
Et
c'est
misère.
Parce que, voilà, après le big quit et le quiet quit, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais je suis en train de perdre ma vie pour la gagner. Voilà. Et donc, parce que je fais un métier qui n'a pas d'autre sens que de me rapporter mes fins de mois. Et donc, c'est vrai que nous, on a une chance évidemment très grande parce qu'on fait un travail qui, encore une fois, nous permet de vivre et en même temps qui est notre passion. Ça, c'est l'idéal. C'est pour ça que je pense que par rapport à la réforme des retraites et par rapport à la question du travail, le sujet autonomie, sens et bien-être au travail, ça va devenir exponentiellement important politiquement dans les années qui viennent. Ça va être crucial.
Et ça le devient, encore une fois, peut-être d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire la meilleure manière peut-être d'anticiper le vivre longtemps, c'est de rester actif.
Mais bien sûr, regardez quelqu'un comme Picasso. Moi, j'aime pas Picasso, j'aime pas sa peinture. Bon, mais je sais que je suis un peu particulier. D'ailleurs, comme Houellebecq et comme Lévi-Strauss, qui n'aimait pas non plus. Mais néanmoins, cet homme est fascinant parce qu'à 93 ans, il était encore d'une jeunesse d'esprit fascinante. Il avait une jeune femme qui avait, je sais pas quoi, quasiment 45 ans de moins.
Et ça lui est aujourd'hui reproché, compte tenu du traitement qu'il réservait à ses femmes.
Parce que c'était un vrai salaud avec les autres, avec les femmes en particulier. Mais c'est pas ce qui lui est reproché, c'est d'avoir été cette conduite comme une crapule avec les femmes, mais c'est pas d'avoir une différence d'âge. Et c'est vrai que voilà, moi ce que je vois, c'est que la vérité, ceux qui s'imaginent qu'ils vont être heureux parce qu'ils arrêtent de travailler et qu'ils vont arrêter à 64 ans ou 62 ans ou 65 ans de travailler et qu'ils se disent, ah c'est formidable, je vais pouvoir aller à la pêche et puis je vais m'occuper de mon jardin et puis peut-être j'achèterai un petit bateau et puis voilà. Mais en vérité, trois ans après, vous les retrouvez alcooliques au dernier degré parce qu'ils s'aperçoivent que sans le travail ils s'emmerdent. Voilà pourquoi moi je défendais cette idée dans la dernière réforme des retraites j'ai fait passer le message à Macron mais sans succès, d'une retraite en sifflet, c'est-à-dire d'un travail dont on sortirait progressivement. En vieillissant, on nous proposerait un deux tiers de temps, un mi-temps, un tiers de temps. Et j'en parlais avec des gars de la CGT, figurez-vous, à la SNCF, qui m'avaient accueilli très gentiment, enfin, peu importe le détail. Et ils me disaient, ah, mais c'est exactement ce qu'on voudrait si on avait à 65 ans un mi-temps ou un tiers de temps.
Voilà,
De dégressif, parce que ça nous permettrait de garder le lien social, l'apéro avec les amis le soir, etc. Parce que se retrouver avec son vieux mari ou sa vieille bonne femme à la maison, à rien faire d'autre que d'aller à la pêche, je suis désolé, de faire son jardin, au bout de trois ans, tu te flingues.
Bon, je vous renvoie à votre vieille bonne femme, Luc Ferry. C'est l'expression que vous avez choisie. J'espère que vous l'avez bien choisie.
Je vais me faire tuer à Québec, on n'est pas...
Au Québec, pas qu'à Québec, je vous l'assure.
Ah bon, d'accord.
Ah, c'est délicieux. J'ai pris une fois encore beaucoup de plaisir.
Vous êtes gentil comme tout, c'est sympa. Et quand je dis gentil chez moi, c'est pas, ça ne veut pas dire bête. Je m'incline devant l'intelligence, mais je m'agenouille devant la gentillesse.
Alors, vous avez été formidablement gentil, Luc Ferry. Merci beaucoup.
Merci à vous surtout.
Alors, c'est tout pour cette semaine. Était à la recherche Marianne Grenon. C'est Jeanne Croteau qui fera l'assemblage de tout ça. Stéphane Bureau-Microphone. À très bientôt. Salut, Luc Ferry.
Salut, jeune homme.